Merci d'écouter le programme du studio Kalangou. Il est 17h. Tout de suite, le journal en français avec Rafika Taher. À présent, les titres de cette édition du 8 septembre 2022. La Commission nationale des droits humains, CNDH, a partagé ce matin à Niamey une étude diagnostique sur les obstacles à l'instauration d'un climat de confiance entre forces de défense et de sécurité intérieure et les populations. Les détails dans un instant. Ce 8 septembre est célébrée la journée internationale de l'alphabétisation. Selon l'Institut national de la statistique, plus de 70% des Nigériens de 15 ans et plus, en majorité des femmes, sont analphabètes. Et de la partie magazine de ce soir, le chef de division restauration des terres au ministère de l'Environnement explique les avantages de la régénération naturelle assistée des terres. Une rencontre de partage des conclusions issues de l'étude diagnostique sur les obstacles à l'instauration d'un climat de confiance entre population et forces de défense et de sécurité intérieure est organisée ce matin à Niamey par la Commission nationale des droits humains. Il n'est pas normal que les citoyens craignent la force publique, explique le président de la CNDH, Mati El-Hadj Moussa, au micro de Salamatou Kadri.
Les forces de défense et de sécurité sont au service des citoyens. Donc, il n'est pas normal que le citoyen craigne la force publique. Non, la force publique doit avoir une posture protectrice. Et pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait des relations de confiance. C'est pour cette raison que nous, au niveau de la Commission nationale des droits humains, nous avons fait mener cette étude-là pour qu'on puisse comprendre quel est le fond du problème qui plombe les relations entre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité. Les gens doivent se dire que les forces de défense et de sécurité-là sont là pour les protéger. Protéger leurs biens, protéger leur intégrité physique et tout. Et non pour les faire peur. Donc nous, notre préoccupation, notre apport, c'est de mener ces discussions, mener ces études, mener ces réflexions, cerner le problème et savoir où et comment agir de manière à ce que l'on crée les conditions d'un retour de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans notre pays et dans notre sous-région.
Lancement mardi à Madawa, région de Tawa, du premier forum du département Fodema. Il a pour thème cohésion sociale, base du développement socio-économique et sécuritaire. La cérémonie de lancement s'est faite en présence des autorités administratives et coutumières du département. Abdrahman Mohamed Mokhtar, président du comité d'organisation, explique les raisons de ce forum au micro de Hamza Nomaou.
Nous avons tenu cette rencontre dans le but de créer un cadre permettant aux ressortissants de Madawa de se retrouver pour discuter des problèmes qu'ils rencontrent dans leur entité, des fonctionnaires de l'État et ceux travaillant au niveau des communes. Bref, tous les acteurs du développement, toutes les différentes couches de la société qu'on se retrouve pour dialoguer sur les valeurs héritées de nos ancêtres, telles que la solidarité, la cohésion sociale. Nous pensons que c'est en appuyant sur ça que nous pouvons lutter contre la pauvreté et certains problèmes. En tant que ressortissants de Madawa, nous voulons apporter notre contribution. Cette initiative concerne 6 communes de Madawa. Nous avons été dans toutes ces 6 communes pour rencontrer les maires, les organisations de jeunes, des femmes et autres. Nous avons également rencontré les chefs coutumiers et nous leur avons expliqué le bien fondé de cette initiative et que nous pensons que c'est notre cohésion sociale qui est la solution aux problèmes que nous rencontrons.
Direction Zender, où les autorités administratives et coutumières de Tanout ont assisté mardi à un forum dédié à la paix et à la cohésion des communautés de la commune rurale de Ténia. Karimoun Ibro, préfet du département de Tanout, explique les motivations de ce forum au micro de Maman Alassane.
La raison pour laquelle nous avons initié cette rencontre est le choix du centre de Abdel Nazé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Alors nous avons jugé susceptible d'aller là-bas pour échanger avec la population. Cette rencontre a réuni tous les chefs traditionnels, les maires, les membres du comité départemental de sécurité du département de Tanout, l'organisation des jeunes et les leaders d'opinion. C'est parce que tous les appels que nous avons lancés à leur endroit n'ont pas été entendu. Alors nous avons décidé de venir vers eux pour discuter ensemble et connaître qu'est-ce qui les pousse à faire de tels actes et voir comment il faut y remédier. Un groupe est chargé de diagnostiquer les problèmes. Leurs délégués sont venus, ils nous ont écoutés et ils sont satisfaits. Maintenant, nous attendons des résultats positifs. Voilà en gros ce qui nous a poussé à faire le choix de la zone de Abdel Nazé.
Comme annoncé dans les titres, aujourd'hui c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Elle a pour objectif de souligner l'importance de l'alphabétisation auprès des populations. Au Niger, selon l'Institut national de la statistique, plus de 70% de la population nigérienne de 15 ans et plus ne sait ni lire ni écrire et la grande majorité sont les femmes. Cela représente un handicap considérable pour moderniser l'économie du pays, estiment les autorités. Plus de détails avec Rahila Toussoumana.
L'alphabétisation des adultes est l'un des leviers pour une participation active des populations aux actions de développement, selon le ministre de l'Éducation nationale, professeur Ibrahim Natatu. Et l'INS a relevé que le Niger fait partie des pays ayant le plus faible taux d'alphabétisation, soit environ 30% en 2021. Néanmoins, des efforts sont consentis par le gouvernement et ses partenaires pour baisser le taux d'illettrisme dans le pays. D'ores et déjà, le gouvernement a adopté une politique nationale d'alphabétisation et de l'éducation non formelle qui consiste à former plus d'adultes, de récupérer et d'insérer un nombre important d'enfants non scolarisés au niveau des structures formelles d'éducation. Selon le ministre, pour l'année 2019-2020, le gouvernement a formé environ 30 000 personnes, dont plus de la moitié représentent les femmes et les filles. Il a également annoncé l'enrôlement de 70 000 adultes et 50 000 jeunes de 9 à 14 ans non scolarisés et déscolarisé par an jusqu'en 2026.
Le studio Kalangu organise à Maradi du 8 au 12 septembre une formation à l'endroit des animateurs de ses radios partenaires sur le thème « Réalisation d'une émission interactive ». Pour le chargé de formation du studio Kalangu, Aliou Abdou, il s'agit d'outiller ses animateurs sur comment bien préparer une émission interactive et aussi les amener à choisir des thématiques de société. Il est au micro de Mohamed Maman.
Dans nos médias partenaires, on organise ces émissions interactives à chaque fois. Pour certains, c'est des émissions interactives de distraction, pour certains, c'est des émissions interactives ludiques. Mais cette fois-ci, nous voulons insuffler une nouvelle dynamique, une autre dimension des émissions interactives, cette fois-ci thématique, basée sur des sujets de société, pour que ces émissions interactives-là soient plus intéressantes. Le téléphone portable est un outil indispensable qui permet à la radio d'interagir avec des auditeurs, avec des intervenants sur place, mais aussi des auditeurs qui appellent pour donner leur point de vue par rapport à des aspects liés à leur vécu quotidien. L'objectif que nous visons ici à ce niveau, c'est de permettre à ces animateurs de nos médias partenaires de savoir d'abord qu'est-ce qu'une véritable émission interactive, comment la préparer, comment l'animer, comment la conclure et comment faire face à ces multiples appels des auditeurs, faire face aussi à certains dérapages, à certains propos calomnieux, diffamatoires et injurieux de certains auditeurs.
Dans la région de Tillabéri, plus de 70 ménages du village de Wankama, de la commune rurale de Danchandou, département de Kolo, sont sans abri depuis le 16 août. Les fortes précipitations enregistrées ont causé des inondations et des effondrements de maisons. Selon certains chefs de ménage, la cour d'une école est leur seul abri aujourd'hui, d'où ce cri de cœur au micro de Seydi Abdou Winditan.
Nous rencontrons d'énormes difficultés. Nous n'avons plus de maison. Nous sommes actuellement dans des écoles et tous nos biens sont exposés. Nos ustensiles de cuisine, nos effets. Nous sommes nombreux à occuper ces écoles. Mais certaines familles ont pu mettre en place des hangars pour se reloger.
Les femmes sont logées dans l'école et nous dormons dehors à l'air libre. Mais actuellement, nous construisons des hangars pour quelques-uns. Une famille peut bénéficier d'un hangar. Nous avons espéré avoir des tentes. Il y a de bonnes volontés qui nous donnent par exemple du riz. Vraiment, nous ne souffrons d'aucune maladie, mais nous manquons surtout de nourriture et d'abri.
Depuis notre arrivée à Wankama, on ne dort pas bien, on ne mange pas bien. Nous sommes dans des hangars. Nous n'avons pas les moyens d'acheter des secours et autres accessoires pour couvrir les hangars. J'ai 7 enfants. Leur père est en déplacement. Nous avons des difficultés au niveau du logement et de la nourriture. Avant-hier, nous avons eu un don de savon et de nourriture. Toute contribution est la bienvenue parce que nous sommes dans des difficultés.
En bref, l'Union européenne a octroyé 225 millions de francs CFA additionnels en anticipation de nouvelles inondations au Niger, indique un communiqué de presse de la Commission européenne publié hier. L'enveloppe assistera 3 000 ménages dans les régions de Niamey, Tillabéri et Dosso. Ce financement additionnel permettra entre autres des interventions humanitaires de sensibilisation au risque de maladies hydriques récurrents lors des inondations, ainsi que la réception d'éventuels déplacements placés sur des sites préparés à cet effet, ajoute le communiqué. La saison des pluies rime avec le développement du paludisme au Niger. Depuis lundi dernier, le centre de santé intégré de la Sonichar à Tirozérine enregistre des cas graves de paludisme. Le médecin-chef du CSI parle du pic de la maladie qui est atteint, d'où la prise en charge gratuite des cas. Al-Ghabit Anousra, chef de la section médecine du centre médical de la Sonichar, au micro d'Ahmed Félan.
Nous avons présentement plus de 17 malades hospitalisés qui sont tous des palis graves. En conclusion, le pic des palis a débuté ici, Tiro. Normalement, la prévention devrait commencer au niveau de la population. Depuis 2019, le gouvernement a fait un dispatching des moustiquaires imprégnés dans toute la région d'Agadez. Cette année aussi, c'est un projet qui a fait ça pour tous les enfants de l'école. Cette mise en place des moustiquaires imprégnés, mais aussi l'hygiène qui consiste à éviter la salubrité. L'eau stagnante. De notre côté, c'est le traitement. Il y a les palis simples et les palis graves. Maintenant, les palis simples, on donne les traitements oraux, les comprimés. Et pour les palis graves, on les hospitalise ici. Pour le moment, les produits sont disponibles. Les voies orales, la voie parentérale, l'injection, tout est disponible pour le moment ici à Tiro. Le problème, c'est le retard. C'est-à-dire la personne est malade à la maison. Traditionnellement, on traite. Maintenant, le malade vient vraiment dans un état grave. Et c'est ça le problème.
Bienvenue dans la partie magazine. Dans le cadre de la restauration des terres, les autorités nationales ont initié des techniques de régénération naturelle assistée des terres, notamment dans les zones des champs. Le lieutenant-colonel Soumane Issoufou, chef de division restauration des terres au ministère de l'Environnement, explique les avantages de ce procédé au micro de Rahilatou Soumane.
La régénération naturelle assistée, ça se passe généralement dans les champs, où on procède à le repérage des jeunes rejets, à l'entretien et maintenant même à l'exploitation. Parce que depuis 2020, il y a eu un décret sur la protection de la régénération naturelle, où au niveau de l'article 8, on donne la latitude à tout producteur, que ce soit privé ou bien un champ communautaire, d'identifier, d'entretenir et exploiter les espèces de chanchois dans son champ, quitte à protéger l'environnement et à respecter les droits des tierces. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un paysan, s'il plante des arbres dans son champ ou il entretient, il peut exploiter, mais tout en respectant les normes environnementales et à respecter les droits des autres.
Ça veut dire que la personne peut choisir une espèce d'arbre à planter dans son champ et après peut en tirer profit, c'est ça?
Exactement. Et là, les agents de l'environnement sont là pour les encadrer, accompagner, pour aboutir à des résultats. Ça veut dire que, comme produit écosystémique, on peut avoir le bois, on peut avoir les feuilles, on peut avoir les feuilles non seulement pour l'alimentation, pour la pharmacopée et pour même le fourrage aérien. Parce que des fois, il y a des espèces où c'est ça, les feuilles qu'on utilise pour nourrir les animaux, surtout les périodes critiques. Parce qu'il y a des périodes où il n'y a pas la paille. Donc là, on a la possibilité d'avoir ces feuilles-là et pouvoir traverser la période de survie des animaux et avoir des animaux d'un bon poids.
Et donc, quel est l'impact de ces arbres pour le sol?
L'impact de ces arbres sur le sol, ça a été quand même démontré par plusieurs études scientifiques. Vraiment, ça a permis d'améliorer la fertilité au niveau du sol. Et qui dit amélioration de la fertilité, dit aussi amélioration du rendement et aussi amélioration du microclimat. Dans un milieu où il y a assez d'arbres, le climat est acceptable. Et il y a une amélioration aussi de la biodiversité. Parce qu'avec la RNA, beaucoup d'espèces qui sont en voie de disparition, les communautés ont commencé à les introduire et maintenant ça donne de bons résultats.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, place à Taji Sirali pour la présentation du journal en tamashek. Puis à 18h15, vous écouterez le forum citoyen public en Hausa enregistré à Gadebeji sur la redevabilité de la gouvernance des élus locaux dans une présentation de Gungu Mahamandantani.